Mais ce qui m'avait beaucoup plu, c'était ah, ces gens-là ont en fait réfléchi à ce qu'ils faisaient, ils l'ont écrit, et en fait, ils sont d'accord sur cette version commune de c'est ça notre culture, ce sont nos outils.
Hello et bienvenue sur le podcast People First. Ce podcast invite les leaders positifs de demain à créer des cultures fortes, saines et impactantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, partenaire chez Teampact Ventures, le fonds d'investissement qui mobilise le sport de haut niveau pour créer des équipes qui gagnent. Chez Teampact, on est convaincus qu'impact positif et performance, ça passe par les employés. On cherche toujours à répondre à la même question. Quelles entreprises sauront attirer, recruter et faire grandir les talents? People First a pour vocation de partager ses apprentissages pour inspirer celles et ceux qui sont convaincus que la culture est un vecteur de performance, de sens et de bien-être. Entrepreneurs, Chief People Officer, experts ou expertes pointues d'un sujet, les invités offrent un regard actionnable et concret sur les leviers people permettant de créer des cultures où chacun et chacune peut exprimer le meilleur. Une question, une suggestion, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante sarah@teampact.ventures. Si vous appréciez ce podcast, laissez-moi une note sur la plateforme de votre choix. Bonne écoute.
L'onboarding. Premier contact privilégié avec l'entreprise de ses rêves. Le moment de créer des liens, de comprendre sa culture, son fonctionnement et sa façon de travailler. Et dans certains cas, de galérer avec son accès mail non encore créé après une semaine. Mais pas chez 360. Quand on sait que 65% des cadres démissionnent dans les 6 premiers mois suite à une intégration mal réussie, on cesse de le négliger. Ça tombe bien. Le dernier épisode de People First sur un onboarding réussi, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Audrey Jarre, Head of Learning and Development chez 360 Learning au moment de notre épisode et depuis récemment Manager Talent et Learning chez Netflix, passionnée de théâtre, d'apprentissage, podcasteuse et conteuse hors pair. Voici quelques-unes des casquettes d'Audrey qui en faisaient la parfaite candidate pour orchestrer l'onboarding chez 360. Pour rappel, 360, c'est cette scale-up fondée en 2009 par Guillaume Alary-Raisonnier, Nick Hernandez et Sébastien Millot qui s'est lancée à l'assaut de l'apprentissage collaboratif en entreprise. Et on a fait tout un épisode sur leur culture avec le talentueux Nicolas Wagner, leur CPO. Dans cet épisode, vous apprendrez à quoi sert l'onboarding, quels sont les KPI dans l'onboarding réussi, comment structurer son onboarding des jours 1, 2, 3 à la suite, avec des choses très précises sur les différentes sections que comporte l'onboarding, et les erreurs type à ne pas commettre. Et on peut lancer. Bonjour Audrey.
Bonjour Sarah, comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien. C'est rare qu'on me demande comment ça va en début d'épisode. En général, je demande aux gens d'où ils me parlent, mais nous on est ensemble dans une pièce vers la rue de Courcelles.
Exactement, et un grand soleil dehors, une belle journée, tout va bien.
Et c'est très très agréable. Alors nous aujourd'hui on va couvrir le sujet de l'onboarding ensemble, donc la façon dont on peut le structurer avec vraiment du vécu, puisque toi en tant que Head of Learning chez 360, Learning and Development si je ne me trompe pas,
Exactement. Tu
as pu voir ça en détail.
C'est ça, depuis mon onboarding, mon propre onboarding il y a 5 ans, quand je suis arrivée et qu'on était 40 et aujourd'hui on est 400 et on continue chaque semaine à onboarder de nouvelles personnes. Et maintenant, c'est moi qui m'en occupe, donc ça a dû me plaire la première fois que je l'ai rencontré.
Et alors, en général, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'essaie toujours d'apprendre à connaître un petit peu les personnes avec qui j'échange. Et donc, j'aimerais beaucoup que tu nous en dises un petit peu plus sur toi en tant que personne et ce qui t'a amené ensuite chez 360.
Alors, je m'appelle Audrey, ça vous le savez, et je suis vraiment passionnée par la façon dont on va pouvoir faire apprendre aux personnes au-delà du système scolaire classique, donc se dire bon, on a un premier diplôme ou peut-être même pas, et comment on fait pour avoir plusieurs étapes, plusieurs époques entre guillemets de sa vie, et à chaque fois faire des choses différentes qui vont nous plaire davantage, mieux correspondre à nos aspirations en fonction par exemple du style de vie qu'on veut avoir, de l'endroit où on veut vivre, potentiellement des technologies avec lesquelles on veut travailler. Et du coup, je pense que le learning and development, au sens où il est entendu aujourd'hui dans les scale-up en France, il est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de se dire, on a des personnes qui sont là, qui veulent apprendre, contribuer à la création d'une entreprise. Comment on fait pour les accompagner, les garder avec nous aussi et les faire évoluer sur différents postes? Et ce métier-là, il est vraiment au cœur de ça, de dire bah, comment on mesure cet apprentissage, comment on le rend possible et comment on fait en sorte que ce soit une bonne expérience pour les différentes personnes. Par ailleurs, moi, dans la vie, ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires, de faire du théâtre, d'écrire. Et je pense que c'est un métier dans lequel on peut énormément faire ça pour construire des expériences que les gens ont envie de vivre et des choses qui vont les passionner dès le jour 1 de l'onboarding, justement. Comment on fait pour raconter l'histoire de cette entreprise et donner envie aux personnes dès le premier jour d'en faire partie. Donc voilà un petit peu, je sais pas si ça répond à ta question, mais ce qui me passionne aujourd'hui.
Ouais, attends, c'est absolument génial. D'ailleurs, on a un petit peu parlé d'improvisation théâtrale avant de commencer l'épisode et on aurait pu continuer pendant des heures.
C'est ça, il fallait l'enregistrer, mais...
Il y a un élément que tu n'as pas mentionné, c'est que tu as un podcast.
Oui, on a créé un podcast qui s'appelle Cielo Connect avec 360 Learning, où on interview donc des personnes à la base, des Chief Learning Officers, mais aussi des personnes qui ont d'autres fonctions liées au learning, comme le Sales Enablement, etc., qui travaillent généralement soit dans des scale-up, soit dans des grandes entreprises. Et ça nous permet de comprendre comment ces personnes-là concrètement appliquent l'apprentissage collaboratif dans leur stratégie learning. Donc c'est assez intéressant parce qu'on va avoir, j'ai enregistré un podcast avec Alan aujourd'hui, par exemple pour parler de comment on fait pour créer une vraie culture avec son équipe commerciale quand on est à distance et en télétravail, donc un sujet qui est, je pense, important pour beaucoup d'entreprises qui ont fait ce tournant-là. Juste avant, j'en ai fait un sur comment on crée des expériences d'apprentissage qui soient pas des expériences tristes, mais au contraire des expériences joyeuses et juste un peu ce sujet du bonheur dans l'apprentissage. Donc c'est assez divers et bon, on mettra peut-être le lien si vous voulez aller voir ça.
Ah bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. Peut-être avant qu'on rentre sur l'onboarding, vous êtes combien chez 360 aujourd'hui pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté l'épisode avec Nicolas Wagner?
Alors j'espère qu'on va dire le même chiffre, mais on est un tout petit peu moins de 400 personnes.
Ok, et toi tu m'as dit vous êtes arrivée quand vous étiez 40?
Ouais, c'est ça, on était à peu près 40. On était dans les mêmes bureaux qu'on a pu garder en fait parce qu'on est aujourd'hui en télétravail et que les personnes se réunissent dans ce bureau-là, mais que moi par exemple je travaille principalement de chez moi. Et oui, à l'époque j'étais la première Learning Engagement Coach, en fait c'est une sorte de consultant en pédagogie et du coup à l'époque j'accompagnais nos clients sur le déploiement de la solution 360 Learning qui est un LMS du coup de l'apprentissage collaboratif pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Nicolas et qui permet aux collaborateurs via la plateforme d'apprendre en fait des autres personnes qui sont présentes dans l'entreprise. Donc à l'époque j'aidais nos clients, puis j'ai bien aimé le métier qu'ils faisaient et je me suis dit ah bah si je faisais le même mais chez 360 et grâce à une mobilité interne j'ai terminé ici.
Et si on regarde l'onboarding, donc très souvent, en fait, on en parle, mais c'est quoi concrètement et ça va de où à où?
Alors, je pense que ça veut dire des choses très différentes selon la taille de l'entreprise et puis la façon, l'importance en fait que les entreprises peuvent lui donner. Pour nous, l'onboarding, c'est vraiment les 90 premiers jours. En France, c'est souvent sanctionné par la période d'essai, par exemple. Ça l'est moins aux États-Unis ou en Angleterre, des pays où on est aussi. Mais on a décidé de vraiment uniformiser ça pour tout le monde. Et l'onboarding, ça va vraiment être emmener l'employé, la personne qui vient nous rejoindre, de son premier jour et la découverte de l'entreprise qu'il ne connaît finalement que par ses entretiens, son marketing extérieur, etc., à être entièrement autonome sur son scope, donc son poste de travail, et également avoir déjà fourni des premiers livrables. Donc vraiment d'arriver d'une posture entre guillemets passive où la personne va arriver et c'est son premier jour et elle reçoit de l'information, à un moment où elle contribue. Et l'onboarding... pour beaucoup d'entreprises, ça va être quelque chose qui va se faire en synchrone, en présentiel, par exemple dans les bureaux de l'entreprise, très condensé sur une semaine. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être peut-être d'un off-site. Nous, on a un onboarding qui se fait principalement en asynchrone avec des contenus par écrit. Et puis pas mal d'autres choses, j'en parlerai. Mais l'idée, c'est de transmettre les informations clés qui vont faire que la personne comprend ce qu'elle doit faire, comprend la stratégie de l'entreprise et puis se met au travail, globalement.
Donc, une forme de montée en puissance.
Exactement. Et pour nous, c'est vraiment important. J'en reparlerai. Mais cette expérience de se dire, et pour aller au-delà des biais cognitifs, on a recruté quelqu'un, on est très content de l'avoir recruté, mais est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment envie de travailler ensemble, des deux côtés? Et la seule façon de s'en rendre compte, c'est de fournir à cette personne toutes les informations possibles pour mieux comprendre ce qu'elle va faire et pour nous de savoir comment on va travailler avec cette personne. Et c'est pour ça que la relation entre, alors en anglais on va dire onboardee pour la personne qui arrive et onboarder pour la personne qui va accueillir et être le point de contact principal, elle est vraiment importante. C'est noué en fait au-delà d'une relation prof-élève, vraiment une première relation de travail. Et chaque chose qu'on va apprendre dans l'onboarding, dans l'idée, doit donner lieu à quelque chose de concret. Ça ne doit pas juste être une idée ou quelque chose qu'on lit. Parce que si on la lit, on ne va pas s'en souvenir à peu près 2 semaines plus tard et l'onboarding n'aura servi à rien.
Mm-hmm. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important aussi de faire des rappels.
Oui, c'est ça. Et d'avoir beaucoup, en fait, de mixer un petit peu. Alors, on rentre déjà dans le détail, mais les différentes techniques d'apprentissage. Donc, parfois, on va présenter des choses où la personne va lire un cours toute seule, regarder une vidéo. Il va y avoir un quiz, peut-être, à un moment. On a même une chasse au trésor par rapport à tout ce qui est onboarding sur nos outils administratifs, qui est la partie peut-être la moins excitante, mais qu'on veut rendre un peu plus fun. Et puis, après, on va avoir des choses qui vont être du domaine de la rencontre. Donc, des rencontres avec les personnes d'autres équipes, etc. Et c'est le fait qu'on mixe ces différentes modalités qui va faire que les gens vont pouvoir s'approprier ces connaissances et qu'elles ne vont pas rester juste nos connaissances, mais les connaissances dans la tête de cette personne qui apporte sa propre richesse, ses expériences extérieures, etc.
Donc en fait, ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est que l'onboarding, d'une part, a vocation à permettre au nouvel employé de contribuer à son plein potentiel à la fin de la période, mais aussi de sceller le pacte employeur-employé, ou plutôt collaborateur, et je sais pas.
Exactement, sceller ce pacte-là. C'est vrai que souvent, on se pose les questions avec les personnes qui travaillent en L&D, Learning and Development, qu'est-ce que c'est le succès de l'onboarding? Donc, on va regarder des metrics autour de l'employee NPS, par exemple, pour savoir est-ce que les employés sont finalement satisfaits de cette expérience. Mais pour nous, une métrique importante, c'est de savoir aussi, est-ce que les personnes réussissent, restent? Est-ce que cette revue un peu de performance qu'on va faire au bout des 3 mois, qui marche un peu dans les deux sens, est-ce qu'elle fonctionne et est-ce que cette personne a réussi, est-ce qu'elle a eu tous les éléments nécessaires pour faire ce qu'elle devait faire, en fait. Et donc, le pacte, il est des deux côtés. On peut pas attendre de la personne qu'elle fournisse un travail de qualité au bout de 3 mois si on l'a pas accompagnée durablement. Et c'est pour ça qu'il y a toute une question de combien de temps on passe, nous aussi, à être dans la préparation de l'onboarding. Combien de temps les onboarders vont passer dès qu'une personne arrive par semaine avec eux, etc. Et ça, on le modélise clairement et on le mesure parce que c'est important que la personne puisse continuer à faire son travail aussi. C'est pas parce que elle a, par exemple, en phase d'hypercroissance, on avait des gens qui accueillaient peut-être 3 personnes dans une semaine. Cette personne, malgré tout, elle a des choses à faire. Mm-hmm. Et si elle recrute 3 personnes, c'est qu'elle en a beaucoup.
Ouais.
Et donc, du coup, c'était important pour nous. C'est pour ça qu'on a notre onboarding principalement en asynchrone, que beaucoup de choses puissent exister, être capitalisées et réutilisées par différentes équipes au fur et à mesure.
Mmh. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est vraiment un point important en startup, l'histoire du temps.
Oui.
Parce qu'évidemment, en théorie, tout le monde a envie de bien faire, mais souvent on dit mais comment je fais en fait passer tout ce temps?
C'est ça. Et c'est une des inquiétudes principales au départ aussi, de dire j'accueille quelqu'un, déjà le recrutement m'a pris du temps, comment est-ce que je vais faire? Et je pense que c'est là où se joue un peu la question de quand est-ce qu'on commence à formaliser le processus d'onboarding. C'est quand on réalise que à un moment, on passe plus de temps à répéter la même chose à chaque fois, faire la même présentation quand on accueille la personne, et que ça devient peut-être, ça peut être tout bête au départ, ça peut juste être le fait d'enregistrer une vidéo plutôt que de faire le même meeting 3 fois de suite. Et pour les choses qui ont peu de valeur ajoutée d'un point de vue interactif, c'est bien de faire des vidéos, par exemple. C'est un conseil hyper concret, c'est de dire, nous, on avait avant des... ce qu'on appelle des réunions de découverte, discovery meetings, avec les personnes de chaque équipe. Et en fait, ces réunions duraient 1 heure. Et c'était 1 heure où il y avait 1 demi-heure de présentation, 1 demi-heure de questions. Et finalement, on a remplacé la 1 demi-heure de présentation par des cours sur notre propre plateforme que les gens suivent en amont. Et ensuite, ils ont les 30 minutes de questions seulement avec la moitié des équipes. Donc, on a 20 équipes, par exemple, et ils ne rencontrent que les 10 équipes avec lesquelles ils vont travailler le plus intimement, disons. Et en fait, les questions qu'ils vont pouvoir poser sont vraiment en relation à le métier que je fais moi qui arrive, le métier que tu fais toi que je rencontre, et ils auront lu une semaine, deux semaines avant, des informations qui leur permettront de poser les bonnes questions et d'être aussi sur un, dans une posture déjà plus dans l'action.
Oui.
C'est-à-dire que ils vont pas arriver juste en disant bah je ne sais pas ce que fait l'équipe marketing, mais en ayant une question peut-être concrète. Ah bah j'ai vu qu'on avait changé de positionnement en 2023, pourquoi, etc. Et on remarque que c'est beaucoup plus utile. Comme ça, et puis tout le monde a gagné une heure, donc tout le monde est content.
Non, mais c'est comme de préparer un meeting en réalité. Et alors justement, tu as touché du doigt cette notion au début, en disant l'onboarding, c'est très différent selon qu'on soit 40 ou 400. Et je pense qu'il y a pas mal de choses entre les deux. À partir de quand, selon toi, on a besoin d'un process d'onboarding? Tu as peut-être déjà un peu répondu à la question juste avant, mais...
Oui, je pense, j'aurais pas de chiffres en termes d'employés, mais peut-être, voilà, à partir du moment où on a ce sentiment de répéter les mêmes choses et que les interactions n'ont pas forcément de valeur et qu'on est simplement, voilà, dans la présentation, que on réalise qu'on pourrait capitaliser et passer moins de temps à écrire ce document ou à enregistrer cette vidéo que le faire plusieurs fois. Donc c'est vraiment une question de gain de temps pour les personnes qui sont impliquées. Et puis après, aussi, ça va dépendre de la situation de la start-up. Si on est sur plusieurs pays, par exemple, fuseau horaire, ça peut être intéressant. Nous, c'est vrai que, par exemple, on a des gens qui sont en Californie et des personnes qui sont en Allemagne. Pour communiquer ensemble, bah, c'est vrai que c'est précieux s'il y a juste cette demi-heure-là de façon plus rare, plus anecdotique, plutôt que de devoir trouver une heure toujours dans l'agenda. Parfois, sur les start-up qui sont entre la France et les États-Unis, c'est le cas de beaucoup de start-up en France, je pense, c'est cette... Moi, j'appelle ça un peu, c'est le l'entonnoir de 17h. C'est vraiment, en fait, à 17h, c'est le seul moment où tout le monde est globalement disponible. Donc, c'est là où on va avoir le meeting All Hands. C'est là où on va avoir le café d'équipe. Et en fait, il reste plus beaucoup de place concrètement pour les meetings d'onboarding. Donc, voilà, c'est une réponse un peu longue, mais je pense, voilà, à partir du moment où on réalise qu'on peut gagner du temps avec ça, c'est important. Et puis aussi, à un moment, ça devient, si on veut capter des talents, etc., c'est aussi assez attractif. Nous, je sais qu'on en parle énormément pendant notre processus de recrutement. Et pour certaines personnes qui ont eu justement un onboarding qui s'est passé de façon désastreuse, qui ont eu l'impression qu'on leur donnait pas toutes les clés pour ensuite avoir du succès, pour eux, c'est vraiment hyper important de savoir comment ça va se passer. On a souvent la question en entretien, comment se passe l'onboarding, combien de temps ça dure. Bon, du coup, c'est bien, on a toutes les réponses. on a fait plusieurs blogs dessus, etc. On leur envoie directement. Et ils sont contents, en fait. Il y a un côté soulagement de savoir dans quoi je mets les pieds. J'arrive quelque part, je ne connais rien et je sais un peu comment je vais être guidée, qu'est-ce qu'on attend de moi. Voilà, un contrat assez clair dès le début.
Oui, puis que dès le départ, on a investi dans le fait de me former, en fait.
C'est ça. Et c'est important aussi. Parfois, les gens s'étonnent de dire « Ah, vous passez quand même beaucoup de temps sur l'onboarding, les personnes ne contribuent pas. » Mais en fait, quand elles contribuent, peut-être un peu plus tard, certes, mais elles contribuent de façon beaucoup plus informée et puis sans avoir aussi à solliciter de façon un peu ad hoc les personnes dès qu'elles ont une question. Parce qu'en fait, à force, ça nous a fait toute une base de toutes les questions, toutes les idées que les gens pouvaient avoir. Et on se rend compte que, voilà, on sort parfois du cadre, mais rarement... quand toutes les personnes sont passées par l'entonnoir.
Et tu penses que ce serait possible, tu vois, vous avez structuré quelque chose d'une façon très, très poussée pour une start-up vraiment plus petite. Enfin, tu vois, on peut commencer à le faire, mais est-ce que c'est pas un marteau pour écraser une mouche?
Alors, je pense pas... Enfin, je pense que c'est utile rien que pour... moi, je pense que c'est hyper important d'avoir une culture de l'écrit quand même dans les startups, notamment parce que je suis convaincue que le passage au télétravail généralisé dans tout type d'entreprise n'a pas que du bon si on n'a pas un fonctionnement un minimum asynchrone. C'est vraiment utile de pouvoir se dire, on va respecter, entre guillemets, les temps de chacun, la façon dont les personnes sont plutôt du matin, des personnes sont plutôt du soir, des personnes ont des enfants, d'autres n'en ont pas, etc. Et le fait d'avoir l'information accessible à tout moment et de pas devoir déranger quelqu'un qui est dans une phase de travail un peu intense ou qui est en train de s'occuper de ses enfants pour avoir l'info X ou Y. En fait, juste consolider cette information, c'est créer un onboarding d'une façon ou d'une autre, parce que l'information qu'on va donner à un collaborateur qui est là depuis longtemps, c'est aussi une information, si on la met à jour, qu'on va pouvoir communiquer aux gens qui arrivent. Donc, en fait, le passage vers documenter davantage ce qu'on fait, ça permet aux gens d'être plus concentrés et puis ça permet aux personnes qui arrivent d'avoir directement ça qui est là. Et donc, nous, ça s'est fait un peu de façon organique. Quand je suis arrivée, il y avait déjà un onboarding qui a été amélioré depuis à chaque fois par itération successive. Dès qu'une nouvelle personne arrive, il y a toujours une petite chose qu'on modifie. Parfois, c'est juste une virgule que la personne a vue, que personne n'avait vue avant. Et parfois, c'est quelque chose de conséquent et on change la structure. Mais les petites choses sont modifiées. Et quand je suis arrivée, honnêtement, c'était déjà... Il n'y avait pas cet effet potentiellement waouh qu'on peut avoir aujourd'hui de tout ce contenu. Mais ce qui m'avait beaucoup plu, c'était... Ah, ces gens-là ont en fait réfléchi à ce qu'ils faisaient, ils l'ont écrit, et en fait, ils sont d'accord sur cette version commune de « c'est ça notre culture, ce sont nos outils, c'est une façon qu'on te conseille pour gérer tes mails, c'est notre étiquette, entre guillemets, pour les recrutements ». Et le fait que ces personnes soient d'accord sur quelque chose, c'était déjà dire « ah, c'est une start-up, mais c'est pas non plus n'importe quoi, ils savent ce qu'ils font », et ça m'a donné plus confiance dans le produit, dans l'endroit où j'étais. Après, moi, je suis un peu biaisée, parce que j'avais rejoint 360 pour la culture d'entreprise à la base. Donc voilà, je partais peut-être déjà positive au début. Mais voilà, il y a ce côté-là qui est important. Et je pense que ça crée de la confiance pour notamment attirer des personnes qui étaient dans des structures plus classiques avant. Il y a beaucoup d'anciens consultants qui viennent dans des startups, des personnes qui étaient sur des métiers après dans des entreprises plus grandes. Avoir un processus d'onboarding structuré, c'est montrer que le reste aussi il est.
Donc, ouais. Ah ouais, c'est super intéressant. C'est ton paillasson, quoi.
Enfin,
c'est...
Exactement.
Quand tu ouvres la porte, c'est peut-être ton entrée plutôt que ton paillasson. Parce que...
C'est ça.
Et maintenant, si je rentre vraiment dans le concret, donc grâce à ton expérience chez 360, où tu as aussi vu les itérations que vous avez faites sur le processus, en fait, comment on crée un process d'onboarding, de quoi on part et qui doit être autour de la table?
Alors, ma réponse sera tout le monde. En fait, ça va dépendre des contenus, mais ce qui est important, c'est de se dire l'onboarding, c'est pas le L&D manager qui doit être le contributeur principal, mais ça doit être les équipes métiers. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans les startups, les choses évoluent très vite. Et si c'est moi qui crée le module qui présente la stratégie et l'organisation de notre équipe ingénierie ou notre positionnement marketing, en fait, c'est pas moi qui vais, à moins de passer beaucoup de temps à faire une veille constante, etc., savoir quand est-ce qu'il y a une évolution et quand est-ce que ça doit être mis à jour. Et la beauté de l'onboarding, c'est quand il est justement à jour. Donc après, moi, je suis là pour insuffler les pratiques et dire, justement, donner aux gens des conseils par rapport à quand mettre à jour, comment améliorer leur contenu, etc. Mais nous, la majorité de nos contenus sont créés par les experts métiers. Donc, on a notre parcours sur la compliance qui est créé par l'équipe legal, par exemple, le parcours sur la sécurité par l'équipe sécurité, et puis après, voilà, de fil en aiguille. Donc, en fait, tous les éléments dont on va parler après sur comment, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'onboarding un peu la première semaine, c'est des choses. Et il y a une partie obligatoire, donc j'en parlais, legal, sécurité, etc. La partie sur, par exemple, la vision de l'entreprise, nous, c'est des vidéos de notre CEO, par exemple. La partie sur notre positionnement marketing et sur notre produit, ça va être l'équipe product marketing, l'équipe produit. Et donc, le job du L&D manager, c'est vraiment d'être un peu l'architecte de tout ça. De dire dans quel ordre je veux que les gens passent à travers ça et comment, quelle expérience je veux qu'ils aient. Et ensuite, de mobiliser ces experts-là. Donc, nous, on est un LMS et notre vision, c'est le collaborative learning. Donc, on va dire, c'est très simple pour vous. Mais en fait, ça peut être tout bête. Moi, je dis à la personne, tu vas créer un module de formation. Mais ça peut être tout simplement, tu vas écrire un document Word, tu vas enregistrer une vidéo Loom, te filmer pendant 2 minutes, voire... Je fais une interview avec cette personne et c'est moi qui fais le module, la vidéo ou l'écrit, mais sur cette base-là. Mais il y a vraiment un côté où c'est important que ces gens soient impliqués. C'est important de voir leur tête aussi parce que quand la personne va faire son onboarding, c'est important que ce soit pas seulement ma tête ou ma voix ou même ma façon d'écrire qu'elle entende, mais que ce soit un peu représentatif de l'entreprise. C'est pour ça que je dis un peu tout le monde. Après, évidemment, il y a une personne qui gère ça.
L'architecte.
Mais voilà, exactement, l'architecte. Mais ensuite, sur les contenus, si je mesure, moi, tous les contenus que j'ai créés, c'est les contenus autour de notre culture d'entreprise, parce que c'est des choses plus techniques, des choses qu'on voulait aussi potentiellement plus belles, destinées à durer dans le temps, parce qu'on a moins de changements de ce point de vue-là. Et puis aussi, c'était important d'avoir beaucoup de références à nos outils pratiques, au reste de l'onboarding, et potentiellement, c'est moi qui le connais le mieux aujourd'hui. Mais en dehors de ça, je suis contente de dire que c'est pas moi qui ai créé tous les contenus, et heureusement, parce que les heures et les heures, je pense que c'est impossible pour une seule personne de le créer. Par contre, c'est possible pour une seule personne de l'orchestrer.
Oui, c'est ça. Bah, j'aime beaucoup la métaphore. Peut-être mieux que architecte encore.
C'est ça.
Il y a la mise en musique, quoi.
Exactement.
Donc, on a commencé un peu à le voir, mais que doit contenir un onboarding, selon toi? Et dans quel ordre?
Dans quel ordre? La grande question. En fait, alors nous, on a un onboarding qui est divisé. Donc, on a la première semaine qui est assez dirigée. Et ensuite, on a la deuxième semaine, troisième semaine et en fait jusqu'au deuxième mois globalement, qui sont un peu plus flottants. Et donc, dans l'idée, on va avoir une sorte de tronc commun par lequel les gens commencent, qui est obligatoire. Et ensuite, ça va vraiment être à chaque équipe. Donc, dans la, enfin, entre guillemets, après nous, c'est chaque équipe qui vient, puis même chaque onboarder, de décider quelle est la priorité. Par exemple, on est en France, les personnes ont un préavis de 3 mois, on a attendu quelqu'un pendant 4 mois qui arrive. Il y a forcément certaines urgences potentiellement à gérer. Mm-hmm. Voilà, ça arrive fréquemment en start-up aussi, de dire, bah, on est une équipe assez lean, finalement, on n'a pas grand monde, donc la personne doit être opérationnelle directement. Donc, l'onboarding va peut-être être révisé en conséquence, pour donner sur la deuxième semaine, la troisième semaine, déjà de la place pour l'action. Mmh. Alors que sur des métiers où on a plus de gens et où c'est plus une montée en puissance, sur les équipes ingénierie, bah, on sait que tiens, ce développeur-là, en fait, il faut qu'il fasse tout et qu'il comprenne bien le code et ce qu'on a fait avant de rentrer directement sur son métier à lui. Mmh. Et par exemple, nous, les développeurs choisissent quel squad produit, donc quelle partie du produit ils veulent aller. Seulement, une fois que l'onboarding est terminé, ils ont l'occasion de rencontrer un peu les squads qui font leur pub pendant l'onboarding et puis ensuite de choisir à la fin. Donc, ça va vraiment dépendre à chaque fois. Mais du coup, sur le jour 1, pour nous, l'idée, c'est vraiment de créer un peu un cocon, okay. Un socle, une compréhension. Oui, ça marche pardon, aussi. Pardon. Mais de dire, bah, déjà, bienvenue, enfin, comprendre un petit peu ça. Et puis, en fait, pourquoi on est là tous? C'est-à-dire, c'est quoi notre vision? Donc, ça, c'est nos vidéos du CEO. C'est quoi notre histoire? Parce que c'est vrai que maintenant, bon, on a plus de 10 ans, donc aussi, il faut comprendre par quelles étapes on est passé, etc. Et après, directement, on rentre sur comment on travaille ensemble, parce que ça va informer tout le reste. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on ne peut pas apprendre comment fonctionne notre produit, quelle est notre stratégie marketing, si on ne sait pas comment on donne du feedback chez nous, comment on mesure la réussite, par exemple, comment on travaille bah, pour nous par écrit, par exemple. Donc, en fait, ce socle culturel, pour nous, c'est important. Et ce qu'on fait, c'est au lieu de dire simplement, alors nous, on promeut, par exemple, la pensée rationnelle, on va toujours dire, bah, on va mettre des outils. Donc, on va dire à la personne, bah, y a un cadre théorique, certes, mais nous, l'outil qu'on te donne, c'est par exemple, pour la pensée rationnelle, c'est le principe de la pyramide de Barbara Minto. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on te conseille de structurer tes réponses quand quelqu'un te pose une question. Et c'est cette personne qui va l'utiliser. Ou par exemple...
Mm-hmm. Tu peux juste nous dire, quand on dit pensée rationnelle, qu'est-ce qu'on entend en l'occurrence pour vous?
Bah, en fait, comme on travaille beaucoup par écrit, c'est important pour nous de mettre un peu l'ego de côté quand on va répondre à des choses et aussi de bien formuler sa réponse pour pas noyer les personnes sous un flot d'informations qui potentiellement n'a pas d'intérêt et qui est juste là pour montrer ce qu'on sait, etc. Mais soi-même faire aussi un petit peu l'effort de réfléchir à... comment on a réfléchi à ça, quelle est selon nous la bonne solution, ça s'appuie sur quels arguments, etc. Donc c'est un peu comme faire une disserte à chaque fois. Mais dans l'idée, c'est de se dire, on veut avoir des interactions écrites, par exemple, mais on veut pas forcément que ça prenne trop de temps aux personnes de voir ça. Donc il y a un effort à faire. Dire, je passe pas une demi-heure en meeting avec toi à débattre de ça ou ça, mais je t'explique en fait quelle est ma position et sur quels arguments je m'appuie, etc. Donc ça va être quelque chose de basique, mais qui est pas forcément employé dans des entreprises où on va avoir une grosse culture du brainstorming à l'oral ou des choses comme ça. Donc on se dit, et ça c'est valable, nous c'est assez spécifique, mais c'est valable partout, c'est de dire un peu c'est quoi les règles du jeu. Pour un exemple peut-être plus simple que quelqu'un que des gens connaîtraient, on utilise le zéro inbox pour gérer nos boîtes mail, qui est une méthode qui est assez utilisée en start-up. Et pareil, c'est une façon de dire, bah, nous on promeut pas une sorte de productivité à l'extrême avec des hacks, des choses comme ça. On te dit juste, en fait, si tu gères ta boîte mail comme une liste de tâches et que tu respectes tel et tel conseil, potentiellement ça va être plus simple pour travailler avec les personnes de façon asynchrone parce que tu vas pouvoir gérer leurs demandes différemment que sur un outil de type Slack où on va s'attendre à ce que tu répondes immédiatement. Et donc, c'est comme ça qu'on les introduit aux différents concepts. C'est de dire, bah, voilà tel outil, voilà telle méthode. Et on leur montre à chaque fois des exemples. Donc, sur... le principe de la pyramide ou la pensée rationnelle, on va leur dire, bah voilà, 4-5 exemples sur des conversations récentes où ça a marché, par exemple. Et eux-mêmes, on va leur demander ensuite de faire un exercice où ils l'utilisent. Mmh. Et ça, c'est dès le premier jour, avec pour idée, et ça remonte reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, de dire dès le premier jour, je ne consomme pas, je produis.
Oui, être actif.
Exactement.
Ouais, complètement.
Donc ça, c'est le premier jour et je vais aller plus vite sur la suite. On essaye d'avoir sur le deuxième jour aussi pas mal d'éléments sur nos outils, en fait, pour qu'il n'y ait rien qui soit un sujet de friction. Donc, on va dire, les outils RH, en fait, c'est comment que je suis payée, c'est comment que je pose mes vacances, c'est comment que j'achète mon setup remote pour chez moi si j'ai besoin d'un deuxième écran, comment est-ce que j'accède, au back-office du produit, pour que, en fait, dès que j'ai une tâche ou dès que j'ai une discussion par la suite, j'ai pas du tout la friction du manque d'accès.
Mmh. C'est enlever les frictions.
Exactement. Et ça, c'est le B.A.B.A., je pense, pour tout onboarding, mais avant de se poser la question d'une plateforme e-learning, des vidéos, c'est de se dire, en fait, la personne, si elle arrive le jour J et que ses accès sont pas créés sur les outils qu'elle va devoir utiliser, en fait, c'est à elle de se mettre dans une posture désagréable, d'aller voir les gens, de les relancer. Enfin, c'est des choses qui sont pas du tout agréables sur un premier jour. Et nous, c'est marrant parce que parfois, je me dis, on demande aux gens, qu'est-ce que vous avez préféré cette semaine? Et moi, je pensais le kit, parce que maintenant, on envoie un super mug, des choses comme ça, où je me disais peut-être les interactions sociales, etc. Et c'est le fait que tous mes accès aient été créés avant. Et il y a une sorte de traumatisme un peu dans le monde des startups de j'arrive quelque part, les gens savent pas que j'arrive, on a recruté plein de gens de toute façon, rien n'a été créé, je sais pas, mon badge marche pas. Et le fait de retirer ces frictions-là, et je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, et ça plaît beaucoup.
Ouais, et ça veut dire qu'il faut le préparer. C'est-à-dire que en amont, et ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est toujours important de le rappeler, il faut avoir un peu sa checklist quand quelqu'un arrive, mais des trucs de base, quoi.
Exactement. Des trucs de base. C'est vrai que nous, on a des checklists un peu pour tout le monde. On a la checklist pour la partie administrative, donc dans l'équipe RH. Mais on a des checklists pour l'onboarder aussi, sur les mails qu'il doit envoyer, se dire le premier jour, ça va de soi. Mais pour certaines personnes, peut-être pas, de dire sa première interaction, ça va être avec moi et on fait un meeting ensemble. Je prévois déjà un café avec les autres personnes de l'équipe. Mm-hmm. Je planifie nos meetings la première semaine tous les soirs, la deuxième semaine à la fin de la semaine. Et en fait, on a des checklists. Et un peu comme les conducteurs de train japonais, c'est presque, on dit les choses à voix haute. Mmh. Et comme ça, on est sûr de rien oublier, de dire, j'ai envoyé ça, j'ai fait ça. Et pour la personne qui onboard, ça enlève aussi un niveau de stress, une charge mentale, parce que elle est pas en train de se dire, est-ce que j'ai oublié un truc? Il arrive la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? Et ça, on voit que ça aide beaucoup.
Ah ouais. Et donc, premier jour, pourquoi je suis là? Quelles sont les valeurs et comment elles s'incarnent? C'est-à-dire comment on travaille ensemble?
Exactement.
Deuxième jour, les outils.
Exactement. Et puis aussi, commencer à introduire un peu les personnes aux choses importantes, donc sur le produit, le marketing, juste qu'ils comprennent, par exemple, pour des personnes qui viennent pas du L&D, de comprendre c'est quoi le marché du e-learning, etc., d'avoir ce langage un peu partagé. Et ensuite, là, on va partir sur comprendre les autres équipes. En fait, c'est quoi l'écosystème et comment je travaille avec les autres. Donc, c'est là qu'il y a ces fameux modules dont je parlais, qui ont été créés par toutes les équipes. Mm-hmm. Et donc là, dans la même journée, on va pouvoir apprendre ce que font les équipes sales, ce que font les équipes engineering, etc. Et à travers ça, on va revoir finalement à la fois les méthodes de travail, à la fois la vision de l'entreprise, à la fois les outils, parce qu'on va avoir dit, le premier jour, j'ai eu accès, Amplitude, et en fait je vois que le produit l'utilise pour ça, et d'ailleurs vu que j'ai accès, je peux déjà, maintenant que je joue ce cours, avoir accès à cette métrique là qui m'intéresse. Et en fait c'est toute une question de dire, on donne un maximum d'outils et de pistes pour que les gens puissent avoir la curiosité d'aller plus loin. C'est ça qui est important pour nous, c'est de dire, la personne dans l'idée, et c'est ce que nous disent beaucoup de gens, c'est ils ont, à la fin de la journée, ils ont ouvert 20 onglets différents, parce que c'était pas obligatoire. Mais au détour d'un document, ils sont tombés sur quelque chose. Et c'est ça qui leur a donné envie de s'approprier la connaissance. On pourrait dire que dans les contenus qu'on a dispo dans l'onboarding, entre guillemets, qui peuvent être découverts, on a peut-être 20% qui est vraiment dans le tronc linéaire. Et après, l'idée, c'est que les gens puissent aller s'approprier ça et qu'on leur laisse un peu de temps pour ça aussi. Que ce soit la première semaine, un moment où ils puissent comprendre tout ça et créer leur propre connexion un petit peu.
Mmh. C'est marrant parce que c'est vraiment un truc de prof, ça. De se dire, je lance des bouteilles à la mer et après, les gens iront creuser.
Exactement. Après, encore une fois, on travaille dans le secteur du learning. Donc, je pense que les gens sont curieux, etc. Mais c'est valable partout aussi de se dire, il faut avoir ce tronc commun un peu strict. Et là-dessus, c'est vrai que les personnes parfois se disent, il faut vraiment que j'ai fait ça le jour 1. On leur dit non. Tu peux terminer ton jour 1, la matinée du jour 2. Mais dans l'idée, c'est plus se mettre dans cet état d'esprit. eux-mêmes savoir un petit peu où s'arrêter, parce que c'est vrai qu'on peut être très curieux le premier jour. Si on avait quelque chose qui est juste sur semaine 1, par exemple, je sais que personnellement, je ne m'arrêterais pas forcément à la fin du jour 1. Je me dirais, ah bah oui, je vais directement faire la suite parce que ça a l'air hyper intéressant, etc. Le fait de séquencer, ça aide aussi à faire en sorte que la personne soit quand même... Il y a un sentiment de bien-être aussi sa première semaine, c'est important.
Et donc, pardon, mais je t'ai interrompue. Mais pour bien comprendre, donc, je ne récapitule pas le premier jour qui est un peu mission, valeur, travail. Deuxième outil. Et commencer à comprendre le marché. Troisième, écosystème.
Exactement.
Force en présence.
Exactement, force en présence.
Et du temps
libre. Et ensuite, du temps libre. Et après, ça va être par équipe. Donc, on va dire qu'on a trois grandes parties dans une startup. On a la partie un peu corporate, la partie engineering et la partie revenue. Et donc, du coup, chaque entre guillemets, partie de l'organisation va avoir son propre onboarding. Et donc, par exemple, pour les sales, donc c'est la partie revenue, ils vont avoir quelque chose de très spécifique avec directement des mises en situation, etc. Pour la partie engineering, ils vont commencer à coder et pareil, faire des code reviews entre eux. Pour la partie corporate, ça va vraiment être spécifique selon chaque métier. Et du coup, l'idée, c'est, nous, on a ce tronc commun ensuite qui continue un peu en mineur, mais la majeure, ça devient ce que fait chaque... partie de l'organisation.
Avec des cas pratiques.
Exactement, des cas pratiques. Par exemple, pour la partie vente ou la partie customer success, il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle, avec un bel anglicisme encore, le shadow, donc être un peu l'ombre de quelqu'un qui fait un meeting avec un client, un kick-off, je sais pas, un call de vente. Et juste d'être là, donc ça permet de créer une relation avec la personne dans son équipe qui fait ce call-là, ça permet de voir concrètement dédramatiser la situation. Et puis, ça permet aussi de commencer à voir ce qu'il va voir pendant l'onboarding. Donc, il va voir, par exemple, un script pour faire un kick-off avec un client. Et ben, il va l'entendre. Et puis ensuite, ce sera à lui de le faire. Et du coup, il va s'approprier ça, encore une fois, de multiples manières. Et ça, ça va vraiment dépendre de chaque partie de l'organisation. Mais à chaque fois, ça repose sur les mêmes principes qui sont de voir les autres faire, d'en profiter, du coup, pour créer une sorte de connexion avec ces gens-là, donc ça participe de l'aspect social de l'onboarding qui est important, on en parlera. Et puis, de faire soi-même ensuite, pour se confronter un peu par essai-erreur à ce qu'on ne sait pas faire, parce que c'est vrai que quand on n'a pas fait quelque chose qu'on l'a lu, on peut penser le maîtriser, jusqu'à ce qu'il faille le faire soi-même, et bon, c'est, dans ce sens, c'est bien. Ça peut être parfois un peu laborieux, et pour certaines personnes, ça peut rappeler l'école, par exemple, parce que nous, on note les personnes à chaque fois, mais c'est toujours dans un esprit d'amélioration continue et de feedback, qui est un peu similaire avec ce qu'on va faire ensuite dans la continuité de l'expérience employée, de dire on va évaluer ça quoi qu'il arrive dans le cadre de performance review, d'entretien annuel. En fait, autant te donner un état des lieux d'où tu pars pour voir où tu peux arriver justement. C'est ça qui montre un petit peu que du chemin a été parcouru. Ouais. Sinon, on se rend même plus compte qu'on a appris quelque chose.
Oui, et puis il faut bien savoir à quoi ça ressemble le succès aussi.
Exactement.
Tout simplement.
Et c'est dur au départ. Je me rappelle, moi, mes premiers shadow et mes premiers calls, c'était un peu compliqué de recevoir un peu ce bulletin scolaire. Mais il y a un côté qui est génial aussi, d'avoir ces retours des autres personnes de son équipe, parce qu'après, on va moins travailler avec elles. On va être peut-être sur le terrain. Je reprends l'exemple des vendeurs, par exemple. On va être avec des prospects, etc. Là, on a vraiment l'occasion de faire un peu corps avec son équipe, de comprendre c'est quoi les attentes, c'est quoi le langage commun, comment font les autres. Et c'est vraiment une super expérience de collaboration. Et même pour les personnes qui sont de l'autre côté, qui sont en train d'évaluer ou de, qui sont déjà là depuis longtemps, eux-mêmes, le fait d'avoir quelqu'un de nouveau qui les observe, en fait, ça redonne un peu un nouveau souffle de « Ah, il faut que je me mette au mieux de mes capacités.
» C'est clair. Et après, on passera plus sur les erreurs typiques à ne pas faire, parce que je pense que c'est intéressant. Mais avant ça, j'aimerais évoquer le sujet que tu mentionnais là, des moments de rencontre.
Oui. Alors ça, c'est assez important. Ça va dépendre aussi la façon dont l'entreprise s'organise, de où les personnes sont situées. Nous, par exemple, on est très distribués. Donc, c'est impossible de faire venir tout le monde parce qu'on va avoir des gens qui vont être dans tous les États, aux États-Unis. Et puis, on promeut un petit peu ça. Donc, quand les personnes nous rejoignent, c'est aussi pour avoir cette liberté et pas forcément de devoir venir pour une semaine d'onboarding, etc. D'autant plus que les personnes avec qui ils interagissent sont elles-mêmes ailleurs. Donc, ce serait impossible juste de faire se réunir tout le monde parce qu'il faudrait juste être au même endroit tout le temps. Mais pour certaines entreprises qui sont dans une seule et même ville, je pense qu'il y a une vraie valeur aussi à se réunir parfois, par exemple, de commencer par cohorte. Nous, on a ça en virtuel, mais en présentiel, ça marche très bien aussi, de dire, bah, en fait, les gens vont pas juste arriver tous les lundis. On va dire, il y a un lundi par mois ou deux lundis par mois où les gens arrivent. Et du coup, il y a cet effet où mon contact social n'est pas juste avec les gens qui sont dans l'entreprise qui m'accueillent, mais on fait aussi un peu équipe avec d'autres personnes qui font quelque chose de différent, mais qui arrivent en même temps que moi, qui ont le même processus d'apprentissage et avec qui on peut avoir un peu une sorte de de camaraderie exactement qui va être assez utile. Donc ça, c'est bien. Nous, par exemple, un système qu'on a mis en place, on a mis des sortes de buddies par cohorte. Donc le buddy, ça va être c'est assez classique en startup. C'est un employé qui va pas être dans l'équipe, qui va pas être le manager, mais qui va accueillir une personne qui arrive et qui va lui faire en fait comprendre un petit peu les choses peut-être plus informelles, lui donner des conseils. Ça peut potentiellement être la personne à qui la personne envoie un message si elle a un doute sur quelque chose et elle n'a pas envie de poser cette question à son manager parce que ça la mettrait pas dans une posture qui lui plaît quand elle vient d'arriver. Et en fait, nous, on a fait ça par système de cohorte. Donc, un buddy va être le buddy de 4 ou 5 personnes qui arrivent en même temps. Et en fait, au lieu d'avoir seulement les rencontres en face à face avec une personne, il va faciliter en fait le groupe. Il va y avoir un questionnaire que les gens remplissent avant avec, par exemple, une photo de leur endroit préféré ou partir en vacances, une image qui représente une de leurs passions, etc. Et le but du buddy, c'est de générer des conversations en dehors aussi un peu du système du travail, etc., avec ces personnes-là. Et de permettre à ces personnes d'avoir un peu ces points de check-in toutes les semaines, voir comment elles se sentent aussi. Donc, commencer avec quelque chose qui les met plutôt à l'aise et puis permettre à ces personnes d'interagir, plus d'avoir une relation privilégiée avec eux. Pour le buddy, c'est aussi positif parce que lui, ça lui permet... Nous, on le promeut vraiment comme quelque chose, quelqu'un qui voudrait diriger une équipe plus tard, qui voudrait créer ce genre de rituel, qui n'est pas forcément à l'aise en facilitation de groupe. Mais en fait, c'est un endroit idéal pour s'essayer parce qu'il n'y a pas d'enjeu, par exemple, de performance. On est vraiment juste pour faire en sorte que les gens se sentent bien ensemble. Mmh. Et donc, pour quelqu'un qui voudrait ensuite diriger une équipe,
c'est hyper intéressant.
Voilà, exactement. Ouais. C'est assez sympa. Et pour les personnes qui arrivent, ça leur permet d'avoir ce contact personnel avec quelqu'un qui est là depuis longtemps. Et à l'inverse, avec des personnes qui leur font se rappeler que non, ils ne sont pas seuls dans cette aventure-là.
Mmh. C'est une version mature du buddy en start-up classique, je trouve. Et... Au sens où quand tu grossis beaucoup, c'est dur d'avoir des buddies en one-one.
Oui.
Et donc, créer des dynamiques... Enfin, c'est une autre façon de scaler des dynamiques d'équipe.
Exactement. Nous, ça marche très bien, le buddy, jusqu'à ce que, justement, on arrive dans une phase où on recrutait peut-être 15, 20 personnes par mois. C'était hyper compliqué d'avoir des gens qui étaient motivés pour ça. Parce que les gens se retrouvaient à avoir 2-3 buddies, par exemple, et à la fin, ils n'avaient plus la même énergie, ils n'étaient plus aussi sincères, plus aussi disponibles.
Il n'y a pas autant de sens.
Exactement. Mmh. Alors que depuis qu'on a lancé ça, c'est une idée qui m'a été donnée. On a une communauté de L&D, justement, et on échange beaucoup entre nous. Et à un moment, c'était un peu un de nos sujets. On se disait, ça semble ridicule parce que le buddy, c'est quelque chose de très simple. C'est pas un concept très compliqué. Mais en hypercroissance, ça ne marche plus.
Ouais.
Et du coup, c'est une collègue de chez Ornicar que je salue, Éléonore Petit, qui m'a donné cette idée. Et maintenant, elle travaille chez Spendesk. Et honnêtement, ça a très bien marché, en tout cas, pour toutes les deux.
Ah, mais c'est génial. C'est super smart. Et alors, une question que je me suis posée tout à l'heure, rapidement, pour clarifier. Mais quand tu dis qu'il y a un ou une responsable d'onboarding, est-ce que c'est forcément le ou la manageuse?
Pas forcément. Ça l'est pour des fonctions généralement très spécifiques. Donc, par exemple, si on a une ouverture de poste, etc., c'est mieux que ce soit la personne qui va manager directement parce qu'elle connaît mieux des enjeux qui peuvent être nouveaux. Je donne un exemple, on a embauché à un moment notre premier copywriter. On n'avait jamais eu de copywriter avant, on n'avait pas d'onboarding spécifique. Donc c'était logique que ce soit sa manager qui crée un peu un parcours ad hoc et puis qui sache en fait quelles sont les conditions clés de succès. Pour les postes, entre guillemets, on va avoir beaucoup de... Alors je dis répétition, mais c'est davantage de scalabilité, entre guillemets. Là, on va avoir des personnes dédiées. Donc, par exemple, on a ce qui s'appelle des Enablement Manager sur la partie Customer Success et Sales. Et là, c'est vraiment cette personne qui va être le point de contact. Et son métier, ça va être de faire ça à échelle, en fait. Parce que, justement, de voir sur un métier spécifique, finalement, les problèmes ou les questions que les gens vont avoir se répètent. Et donc, c'est cette personne-là qui est la mieux placée pour le faire. Parce qu'il va y avoir un gain, plutôt que ce soit des personnes différentes qui le fassent à chaque fois. Donc, on a des rôles dédiés là-dessus. Et sur la partie ingénierie, pareil, c'est un petit peu les développeurs qui, eux, ont une appétence pour ça, qui peuvent devenir onboarder, par exemple, et qui vont avoir ce rôle un petit peu spécifique. Donc, ça va dépendre. Là, en l'occurrence, pour les développeurs, ce n'est pas leur manager. Pour les enablement managers, non plus. Et par contre, pour les métiers corporate, je dirais que c'est plus simple dans la mesure où il y a plus de diversité des métiers. Donc, on peut moins répliquer les choses.
Mm-hmm. Oui, donc c'est un peu différent. Et donc, connexion, c'est buddy, les moments de rencontre. Est-ce qu'il y en a d'autres avant qu'on passe
C'est meeting, donc c'est rencontres avec les différentes équipes, ça je pense que c'est important. Et après ensuite l'idée c'est de dire comment on fait pour faire en sorte que les personnes sachent avec qui communiquer et quand, à propos de quoi. Et donc là-dessus, le fait d'avoir un maximum d'événements et de choses possibles pour que les gens rencontrent d'autres personnes à travers d'autres prismes que leur rôle, c'est important. Moi, j'ai créé un format autour de notre culture d'entreprise qui s'appelle Convexity. Donc, ces différents piliers dont je parlais tout à l'heure. Ça s'appelle les Convexity Hours et on fait ça chaque mois.
Tu peux juste nous rappeler Convexity?
Alors, Convexity, c'est notre système de, entre guillemets, de valeurs. Alors, ça paraît toujours compliqué quand on parle d'entreprise, etc., mais qui nous permet de fonctionner. Donc, avec ces parties, entre guillemets, les plus, je dirais, particulières qui sont le travail, la culture de l'écrit, par exemple, le travail asynchrone, l'abandon des leviers, entre guillemets, traditionnels du management au profit davantage de coaching, par exemple. Donc, c'est notre culture d'entreprise qui s'exprime donc avec ces 13, on appelle ça des guilds en interne. Désolée pour l'anglicisme encore.
Mais non, ça va, c'est beaucoup mieux que...
Et en fait, et du coup, on a chaque mois, sur une des guildes, donc par exemple là on vient d'avoir celui sur notre guilde qui s'appelle Law Authority, et à chaque fois c'est présenté par une personne qui fait partie de ce groupe. Donc on a des groupes qui s'appellent les guilds qui représentent ces différents piliers, et en fait la personne présente sa vision de comment ça s'exprime dans son quotidien, des conseils concrets sur comment être exemplaire en ce sens. Donc, par exemple, on peut faire un événement sur le remote, par exemple, et les questions, ça va être comment en fait vous vous organisez dans votre journée. En fait, c'est quoi que ça vous a permis d'ajouter à votre vie quotidienne, le fait d'être en télétravail, ou au contraire, en fait, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer ce cadre de travail ensemble, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir des événements qui permettent de se poser des questions sur la façon dont on travaille ensemble. On a aussi des événements autour des Employee Resource Groups, donc des ERG, pour que les personnes qui sont, par exemple, s'identifient en tant que femmes ou qui veulent parler d'un sujet lié à l'environnement puissent avoir un levier pour le faire. Et on a aussi après des groupes plutôt de chat un petit peu par écrit, comme ça peut exister partout. L'idée, c'est que les personnes arrivent et comprennent que pendant l'onboarding, elles peuvent être la personne qui a été recrutée d'un point de vue du rôle, mais elles peuvent aussi amener, entre guillemets, l'entièreté de leur personnalité au travail et rencontrer des gens à travers ça. Et c'est ça qui va contribuer à créer le sentiment d'appartenance à l'entreprise lors de l'onboarding. Donc, c'est hyper important pour que la personne ne soit pas juste seule face à ce qu'elle apprend et ce qu'elle fait, mais qu'elle puisse créer des connexions qui font que c'est intéressant d'être là à ce moment-là.
Donc, jouer sur la multiplicité des identités, sur des moments pour se retrouver et sortir un petit peu du cadre du travail.
Exactement.
Écoute, super. Si on parle des erreurs à ne pas faire, ou des erreurs qu'on peut faire quand on veut trop passer de la théorie pure et simple à la pratique de nos rêves, qu'est-ce que tu dirais ?
Pile à ce moment-là, j'ai eu un petit problème de micro, donc vous verrez qu'on a repris l'épisode et puis que j'ai récapitulé les erreurs mentionnées par Audrey.
Donc on va continuer comme ça, histoire qu'on puisse se parler sans les micros, puisque ma carte ne fonctionne plus. Mais donc tu me disais, erreur numéro 1, ne pas penser à l'aspect social, il faut que les gens se rencontrent, il faut réussir à faire en sorte qu'ils sachent à qui parler sur du plus long terme, c'est pas quelque chose de statique. Erreur numéro 2, ne vouloir trop en faire en trop peu de temps. Et donc d'oublier des choses très concrètes comme les plombs de mai. Donc concrètement, il faut laisser beaucoup plus de liberté et espacer, permettre aux gens de creuser s'ils ont envie, par exemple. Erreur numéro 3,
ne pas penser au livrable en fait des premiers 90 jours. C'est quelque chose, il faut y penser dès la fiche de poste. En fait, nous, c'est ce qu'on demande à chaque personne qui veut ouvrir un nouveau poste, c'est de dire qu'est-ce que j'attends comme livrable à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et en fait, l'onboarding, son succès, c'est aussi ça. C'est pas juste est-ce que la personne est contente d'être là après 3 mois, c'est est-ce que nous, avec ce qu'on a vu ces 3 derniers mois, est-ce qu'on embaucherait à nouveau la personne?
qu'est-ce que cette personne a produit, et ça permet d'aller au-delà des biais cognitifs qu'on peut avoir sur l'onboarding, sur la compétence de quelqu'un, etc., notamment sur des postes seniors qu'on va vouloir peut-être ajouter à un moment dans une start-up qui croît. On va se dire, c'est pas juste l'expérience de cette personne, ce qu'elle peut, entre guillemets, en puissance ramener, c'est vraiment ce à quoi elle a contribué, comment elle travaille avec nous dans notre cadre d'entreprise, dans notre industrie, etc. Et pour nous, c'est vraiment clé, cette question des livrables. Encore une fois, je disais, en France, ça correspond bien en plus avec le système de la période d'essai, et ça permet de faire en sorte de juste pas renouveler une période d'essai pour renouveler une période d'essai, mais vraiment de comprendre et de se baser sur des points un peu rationnels de est-ce que cette personne a démontré ce que je veux qu'elle fasse ou pas. Et là, c'est la partie plus axée performance de l'onboarding, mais c'est aussi important de se poser cette question-là dès le début, surtout quand on peut embaucher peut-être moins ou peu sur une entreprise qui croît et qui grandit tout juste. Donc voilà, pour moi, c'est assez important de ne pas faire cette erreur, de se dire l'onboarding, c'est juste quelque chose de sympa, c'est quelque chose d'agréable, ça va passer vite. C'est aussi un moyen, en fait, de créer un contrat entre quelqu'un qui arrive et puis l'entreprise, et de comprendre si on a envie de travailler ensemble.
On reboucle sur ce qu'on disait au tout début, en fait.
C'est ça.
Ouais, c'est marrant. Et si on ouvre sur du plus long terme, l'onboarding, on sait que c'est un vecteur clé de fidélisation des collaborateurs. Je crois qu'un onboarding réussi, ça augmente de 70% les chances que les gens restent à 3 ans. Et puis en plus, t'as un décrochage en période d'essai ou dans les 18 premiers mois qui peut être important. Mais plus long terme, une fois que l'onboarding est fini, comment on fait pour que les gens restent
Mon deuxième cheval de bataille est la mobilité interne. Je pense qu'il y a tout un sujet de gestion des talents qui est hyper important et qui se matérialise de plein de façons. L'avantage des startups, des scale-up, etc., c'est qu'on a souvent des personnes aussi qui ont envie un petit peu dans les profils qu'on recrute et qui ont de faire des métiers un petit peu différents. Et donc, on va se dire, on va construire des chemins de carrière qui ne sont pas le chemin un peu classique de « je fais 3 ans de ce métier, puis je deviens manager ». Mais dans cette entreprise, je trouve la possibilité d'explorer quelque chose d'autre. Et en fonction de mes compétences, mon appétence pour certaines choses, etc., et ce qui fait que, en fait, on n'a pas besoin d'avoir fait du product marketing pour arriver au product marketing. Mais dans le product marketing, il y a quoi? Par exemple, il y a une très bonne connaissance du produit. Et qui a une très bonne connaissance du produit, par exemple, c'est quelqu'un qui a été au support et qui a aidé les clients sur des tickets pendant 3 ans, etc. Et en fait, on va davantage fidéliser cette personne du support. Je prends un vrai exemple, en se disant, on va permettre d'appuyer sur une de ses compétences, de former cette personne en plus, de l'exposer à ce qui se passe, qu'en se disant, cette personne va devenir un manager, parce que sur une équipe, les 5 personnes du support ne pourront pas devenir manager, par exemple. Donc, il y a vraiment cet enjeu de dire comment on permet aux personnes d'aller vers ce à quoi elles ont envie de faire. Donc, ça peut être en effet le management si c'est quelque chose que les personnes désirent, mais c'est aussi leur montrer que la porte est ouverte sur d'autres choses en créant cette exposition aux différents métiers de l'entreprise. On reboucle sur pourquoi c'est important de comprendre l'écosystème et pourquoi c'est important de documenter un peu, d'avoir de la transparence sur les pratiques de chaque équipe. Donc moi, je pense que c'est le levier principal. Si je suis restée personnellement chez 360 Learning, c'est parce que j'ai pu faire 4 mobilités en 5 ans. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'était à chaque fois une opportunité, encore une fois, d'explorer une compétence différente, un aspect différent de l'entreprise, du métier. Et ça, c'est assez clé. Et la meilleure façon pour les entreprises de faire ça, c'est de permettre aux gens qui ont une compétence de la partager en interne. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup en l'apprentissage collaboratif, c'est de dire vos experts, ils sont à l'intérieur et les autres personnes de l'entreprise vont apprendre d'eux. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Je trouve que ça marche plutôt bien et on le voit en tout cas sur nos chiffres, etc., en termes de rétention. C'est quelque chose qui est assez important et quelque chose sur lequel on veut encore davantage pousser cette année. Y a beaucoup de gens en ce moment, je peux clôturer là-dessus, qui se posent la question des équipes recrutement. C'est vrai que beaucoup de startups recrutent moins. On est plutôt sur une phase où il y a des lay-offs, etc. Et en fait, de dire comment on pense à nos équipes recrutement. Est-ce qu'on va se dire on n'a plus besoin des équipes recrutement ou est-ce qu'on se dit ces personnes vont faire des stretch assignments où elles vont aller sur d'autres métiers dans l'équipe RH et au-delà. Nous, on a fait ce choix-là. On a des personnes qui sont passées dans l'équipe learning, des personnes qui ont pris un rôle enablement, etc. Et on trouve ça assez intéressant de réfléchir à ça pour qu'il y ait, justement, on soit moins sensible un petit peu potentiellement aux modalités du marché et qu'on puisse mieux s'adapter. Donc là, ça marche très bien sur ce cas avec les circonstances, mais ça devrait être quelque chose de naturel pour toutes les équipes et pour permettre aux personnes de s'épanouir globalement et de faire ce qu'elles aiment au sein de l'entreprise. on part sur une notion de stretch et pas une notion de... C'est stretch et pas saut quantique.
C'est ça que je... Exactement. C'est quand même important, je pense, de le mentionner. C'est qu'on part de certaines de tes forces et on t'aide à en atteindre d'autres.
Oui, c'est ça.
C'est un saut de grenouille.
Exactement. Après, peut-être que certaines personnes ont envie de faire des sauts quantiques, et je pense que c'est possible aussi, ça s'est vu. Mais en effet, ce stretch, déjà, le fait de montrer par l'exemple que c'est possible, ça, c'est hyper important. Ensuite, nous, on essaie de beaucoup communiquer là-dessus, ensuite, en interne, pour que les personnes puissent voir des success stories aussi, et cette envie-là, cette appétence. On demande aux personnes, deux fois par an, de remplir ce qu'on appelle un personal growth plan, où ils vont dire justement ce sur quoi ils ont envie d'aller, comment ils se projettent à la fin de l'année, vers la suite, c'est quoi leur next step, etc. Et le fait de se poser constamment cette question, ça engage aussi les gens à ne pas rester juste statiques et dans un modèle où on pourrait devenir vite frustré par ce qu'on fait et potentiellement un peu détracteur de l'entreprise, mais au contraire, d'être plus vers quelque chose où on va toujours être un peu en croissance, à chercher ce qu'il y a un petit peu à côté. Et c'est ça qui permet que les gens soient très bons aussi dans leur métier actuel, d'avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qui vient après.
Bah écoute, merci mille fois Audrey pour l'échange.
Merci à toi. C'était super de pouvoir en parler. Et puis, j'espère que ça donnera des idées ou des pistes à des personnes qui veulent le mettre en place ou remettre leur onboarding au carré en cette début d'année.
Oh, bah, c'était génial. Hyper pratico-pratique. Ouais, ça me donne déjà des idées à mon échelle.
Ah, parfait. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est dans la boîte. J'espère que vous avez apprécié ce moment privilégié avec Audrey. On est vraiment rentré dans le détail de ce qui constitue un onboarding réussi. Comment on le structure et à quoi ça sert. Et à très vite pour le prochain épisode de People First.